Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay! Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
J'ai passé un long moment de ma courte encore vie à vivre tous les succès des autres comme des échecs personnels. Mais ça, c'était plus avant aussi d'être produite et d'en faire mon métier. Mais je me disais, mais pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui arrivent? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Et je pensais le public comme les gens. Pourquoi les gens aiment ça et aiment pas ça? Pourquoi nanana? Au lieu juste de dire, mais ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire, quoi? Plutôt que de regarder le monde entier, de regarder comment font les autres, de regarder ce qui plaît aux autres. Pourquoi tu t'accordes pas, toi, de te dire, ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire?
Une fois de plus, je reçois dans ce podcast quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire depuis longtemps. Il y a 4 ou 5 ans d'ailleurs, j'avais fait Bruxelles-Paris juste pour aller la voir en spectacle. C'est Nora Hamzaoui, que vous avez pu entendre, voir ou lire à beaucoup d'endroits, sur scène évidemment, mais aussi sur France Inter, dans Quotidien, dans Grazia, ou via les deux bouquins qu'elle a sortis, qui sont des sortes de compilations améliorées de ses chroniques. Le dernier est paru il y a quelques jours, il s'appelle 35 ans, dont 15 avant Internet. Il y a quelques années, elle s'est aussi lancée dans le cinéma. Son premier grand rôle, c'était dans Double vie d'Olivia Sayas. Et plus récemment, elle a joué le personnage principal du film Éléonore, écrit et réalisé par son frère Amro Hamzaoui. Donc je suis très heureuse qu'on ait pu se poser une petite heure avec Nora, en compagnie de son sublime chat Pétules, que je vous invite à aller admirer sur Instagram, évidemment. Et on a parlé de plein de choses ensemble, de son nouveau spectacle éponyme qu'elle avait commencé à jouer avant la pandémie, du début de sa carrière, quand elle galérait un peu et puis qu'elle a pris les choses en main en se demandant ce qu'elle voulait vraiment faire, de son personnage sur scène, est-ce que c'est elle ou pas, comment est-ce qu'elle l'a construit, de l'écrit, où elle s'autorise davantage le premier degré et la mélancolie, de public imaginaire, qui est un spectacle qu'elle a écrit pendant le premier confinement et qu'elle a joué seule dans un studio, sans public, en direct sur France Inter, de ce qu'elle imaginait de la vie d'adulte quand elle était enfant, de sa passion pour les fleurs, du fait qu'elle essaye d'être la patiente préférée de sa psy, I can relate, de ses débuts dans le cinéma, de sa rencontre avec Olivia Sayas et évidemment de la pub McDonald's qu'elle a tournée à Lisbonne il y a plusieurs années. C'était clairement le début de la grande vie. J'espère que tout ça vous plaira. T'es sur quoi en ce moment, là, pendant le confinement?
Ah, on a commencé?
Bah,
ouais.
Oui, qui sait?
Écoute, je bosse sur quoi? C'est vrai que j'ai l'impression de bosser sur 1000 trucs en même temps, de rien faire en même temps. Quels sont les vrais projets? En fait, ça me fait trop chier parce que j'ai un tournage qui arrive, mais je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Et juste avant que t'arrives, j'ai envoyé un texte en disant, est-ce que j'ai le droit d'en parler à la prod? Et j'attendais leur réponse pour savoir si je pouvais dire que j'étais dessus, histoire de dire que je bosse sur quelque chose. Mais donc, on verra.
Okay.
Et en dehors de ça, je bosse sur plein de petites choses. Mais tu sais, j'avais fait un spectacle à la radio sur France Inter. Et il se peut que j'en fasse une sorte de livre. Mais où, du coup, faut que je développe et que je construise aussi tout autour. Je bosse pas mal là-dessus. Donc, sur la version écrite de ce spectacle. Je bosse là-dessus, surtout, en ce moment.
Mais là, t'avais écrit blindé, parce que j'ai lu que t'avais écrit 1h30 pour finalement jouer 52 à la radio.
Ouais, mais c'est très bizarre, ouais.
Mais ça veut dire que t'as écrit blindé pendant le premier confinement?
Mais en fait, je comprends absolument pas mon rapport. Ce que je veux dire par là, c'est que le texte m'avait pas du tout l'air d'être si... J'ai écrit, mais j'ai pas écrit non plus... en fait, j'ai dû écrire, si tu veux, 26 pages. Là, je suis dans les détails hyper techniques.
26 pages.
C'est pas beaucoup, si?
Bah, moi, ça me paraît énorme pour un truc.
Oui, mais
à
du coup,
la radio,
ça ferait pas une heure. Tu vois, c'est bizarre que ça ait duré aussi longtemps.
Ah non, moi, je trouve ça court, en fait.
Ah bon?
Enfin, oui. En fait, non, parce que je compte en stand-up.
Ben, moi aussi.
Ah.
Mais moi aussi, je compte en stand-up.
Mais c'est tes formats hybrides chelous.
Ouais, je sais pas. Donc, bref. Et mon deuxième spectacle, là, j'étais inquiète parce qu'il fait assez peu de pages, mais il dure 1h20. Donc, pareil,
ton
je ne comprends
deuxième...
pas. Donc, celui que je fais, que je jouais
officiel,
avant le deuxième officiel.
Qui s'appelle Nouveau Spectacle.
Ben, ouais. Ouais. Enfin, il s'appelle pas Nouveau Spectacle. Il s'appelle Nora Hamzaoui.
Ah, d'accord, ok.
Mais parce que, ouais. Mais, il y avait écrit Nouveau Spectacle pour dire que c'était pas l'ancien. Mais du coup, je peux plus l'enlever parce qu'il y a eu la pandémie entre, donc j'estime qu'il sera encore nouveau quand on reprendra.
Est-ce que ça te saoule de devoir un peu présenter un truc comme ça, comme nouveau, alors que toi, ça fait quand même... Enfin, tu l'as joué au moins un an, non ?
J'ai quand même l'impression qu'il est assez nouveau pour moi, ce qui est assez cool. Je sais pas si, tu sais, comme il y a les années humains, les années de chien, les années stand-up, mais moi, j'ai pas vu... Enfin, en dehors de cette pandémie, quoi, on va dire, mais j'ai pas forcément la volonté d'écrire dessus. Enfin, quoi que je l'ai fait pour France Inter, donc je dis n'importe quoi, la meuf se contredit déjà. J'ai aucune volonté de parler de ça, la meuf l'a fait. N'importe
quoi. Et elle
quoi.
Va en faire un livre.
Elle va en faire un livre, donc vraiment, faut que j'arrête. Non, mais ça, c'est le vrai problème, c'est que je vais affirmer des choses et penser le contraire une minute après.
Écoute, ça s'appelle Les gens qui doutent, franchement, c'est,
oui,
je trouve
c'est
ça
grave.
C'est cohérent.
Oui, c'est dans le thème.
Ouais.
Mais mon spectacle, ce que je disais dans celui qui s'appelait Nouveau Spectacle, c'est il est encore pour moi complètement d'actualité, à tel point que je me dis là, je serais incapable d'écrire des trucs nouveaux, j'ai vraiment les mêmes choses à dire. Ouais. Ces choses-là, j'ai besoin de les dire encore. Donc, enfin, voilà. Elle raconte ce que moi ou mon personnage, ou peu importe, un des deux a envie de dire, quoi.
Comment t'as fait la distinction au tout début entre toi et ton personnage? Comment t'as fixé ce qui allait faire partie d'elle, ce que t'allais pas vouloir donner de toi et tout?
Je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé, je me posais pas la question. Et donc, j'écrivais des choses qui m'amusaient, mais sans me poser la question de qui était sur scène. Et en fait, j'allais dire, et ça marchait pas. Mais c'est pas que ça marchait pas, mais c'est que, c'était l'époque où donc je m'autoproduisais, parce que, voilà, je commençais, j'avais pas de prod, je jouais devant, quand j'avais 17 personnes, j'étais vraiment assez euphorique, je trouvais ça super. Et on avait une règle avec une copine, Alice Vivier, qui m'a fait jouer dans son premier théâtre. Qui me disait on joue à enfin genre on annule à moins de 7. Mm-hmm. Et donc il y a eu vraiment beaucoup de moments à 7, ce que je trouve vraiment atroce, mais en même temps c'était marrant et tout. Et puis bref, j'ai continué, je faisais un boulot en même temps. En fait, je faisais un travail en même temps, au début je bossais aux Galeries Lafayette au service web, après j'ai bossé chez Glamour, mais je faisais ça le soir et ça ne se passait pas forcément très bien, mais enfin c'est ni dans l'un ni dans l'autre, c'est-à-dire que j'étais contente sur scène mais ça ne marchait pas, j'allais jamais en vivre. Au boulot, on me prenait pas au sérieux non plus, mais parce que je foutais rien et que c'était pas ce que je voulais faire et que j'exprimais très clairement ma volonté de faire du spectacle. Et eux venaient, je pense qu'ils se disaient la pauvre, en fait, il y a que nous, donc, enfin, voilà. Et, je pense et je déteste le mettre dans mon espèce de bio du spectacle parce que c'est un truc vraiment que je trouve chiant comme anecdote et qui me revient dans la gueule souvent. Et là, c'est moi qui l'aborde, donc ça prouve bien que c'est un problème. Mais il y a eu ce passage chez Ruquier.
Ah oui, dans Demande qu'à en rire.
Demande qu'à en rire. Qui a été quand même, quoi qu'on en dise, même si j'aimerais bien en faire quelque chose d'anecdotique, quand même une petite humiliation.
Donc il t'entège au bout de quelques émissions vraiment pas classe, quoi.
En étant vraiment pas classe, en étant assez horrible, en me disant que j'étais nulle, quoi, et qu'il fallait que j'arrête ce métier, et que je ne savais pas porter une robe, enfin, ce qui était hors de... Enfin, ce qui n'était pas le problème, n'était pas le sujet. Là où ils avaient raison, c'est que j'étais nulle, mais là où je pense que j'ai raison, c'est que je pense qu'on ne peut pas être bon dans cette émission. Enfin, après, il y a des tours de force, il y en a qui arrivent à se servir du format, pour imposer un style, un truc. Je dis pas tous qu'on était tous aussi nuls les uns que les autres, mais en tout cas, il y avait un problème pour moi de mise en scène, de prod, de descendre cet escalier, et déjà d'être jugé par des gens dont t'as pas forcément envie d'être jugé. Et moi qui ai toujours détesté l'école, le fait d'être, qui ai détesté le fait d'être infantilisé, mais je pense dès l'âge de 5 ans, je me sentais infantilisée. Là, qu'on me mate une note et qu'on me juge et qu'on me dise pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et donc, du coup, qu'on me réexplique qu'il y a des normes, des cases, des bonnes et des mauvaises façons de faire. En fait, je pense que c'était tout ce qu'il ne me fallait pas. Et je pense qu'en sortant de là, le truc qui m'a le plus vexée et troublée, bon, un, c'était de me prendre cette humiliation dans la gueule. Et deux, c'était de me dire, j'ai essayé de bien faire pour eux. J'ai voulu leur plaire ou leur. Et c'est comme ça que je me suis perdue dans ce truc. Et je crois que c'est à partir de là où j'ai quitté mon boulot et j'ai commencé à me dire, faut que j'écrive mon spectacle et que je fasse que ça et que j'interdise aux gens de décider ce qui est bien ou pas bien et que moi j'arrête d'être aussi un peu soumise comme ça au regard des autres et de je veux que tout le monde m'aime et tout, ce qui est idiot. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ce truc, enfin quand ce truc-là était un peu un choc, j'ai écrit mon spectacle qui était le premier connu du public.
Au République, du coup.
Ouais, ouais, au République et qui a commencé aux Trois Bornes, puis au Gymnase, puis au République. Et quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai eu un espèce de truc de me dire, OK, j'en ai déjà écrit en vrai deux dans ma vie d'avant non produite. Qu'est-ce qui va faire que celui-ci doit changer? Et c'est au moment où j'ai décidé de prendre le truc, pas d'une manière cinématographique, mais de me dire, OK, il y a un personnage. Qu'est-ce qu'il dit? Je me suis dit, il faut que l'affiche veuille dire un truc. Pourquoi je vais sur scène? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et tu peux pas te définir. Je me suis dit, tu peux pas être tout toi quand tu montes sur scène. Tu peux pas montrer toutes les facettes de toi en 1h20. Donc, qu'est-ce que tu veux montrer? Et j'ai écrit le personnage presque à la troisième personne. Elle est comme ci, comme ça, comme ci, voilà. Je me souviens que j'avais fait une scène ouverte au point virgule, une des rares scènes ouvertes que je fais, et Antoinette au point virgule m'avait dit mais pourquoi elle parle si vite en fait ? Et en fait, je parlais si vite, c'était clairement né du trac. Après, dans tous mes premiers articles que j'ai eus, c'était genre des bimitraillettes, gna gna, sa signature, mais un truc que j'avais pas du tout calculé. Et en fait, j'ai compris aussi que c'était vraiment la peur de pas être écoutée ou entendue, le sentiment d'illégitimité, de se dire si je prends mon temps et que je suis bien tranquille, enfin, c'est clairement pas moi. Donc, il y a quelque chose, je m'étais dit, il y a quelque chose de l'ordre du syndrome prémenstruel, de l'état du syndrome prémenstruel, où elle est pressée, en colère, pas légitime. Très égocentrique quand même, parce qu'il faut l'être pour parler une heure de soi comme ça, et en même temps, elle s'aime pas. Donc je me suis dit, il y a tous ces trucs-là qui sont des parties de moi où je me suis dit, je vais les concentrer sur juste, elle n'est plus que ça, parce qu'elle peut pas être aussi tous les autres aspects que les gens vont pas voir. Et je crois que ça a été ce moment-là où j'ai déterminé, voilà, j'ai commencé à créer... à me dire, mais c'était presque un travail sur scène, ça a pas été compliqué, mais par exemple, c'est un travail que je faisais sur mes premières interviews, de me dire faut que je fasse attention sur mes toutes premières interviews. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui, et d'ailleurs peut-être que je ressens moins le besoin de le faire, mais c'est sur mes toutes premières interviews, notamment les interviews légères en fait de presse féminine ou de les premières interviews un peu légères, ouais. Où je me disais faut que je réponde comme si c'était elle en spectacle et pas moi.
Mais du coup, les gens allaient croire que c'était toi, et donc
ouais, mais
c'est
pour moi,
bizarre,
peu importe.
Ah ouais, ça te dérange pas qu'ils pensent que...
Non, parce que c'est une partie de moi, et que c'est la partie que je veux montrer de moi. Alors que l'autre partie de moi, qui est peut-être vraiment moi, c'est mon intimité, et celle-ci, je la protège beaucoup, et j'ai peur. Ce qui veut pas dire que pour autant, j'ai l'impression de leur mentir, parce que tout ce que je dis est sincère. Et elle, c'est-à-dire que pour autant, c'est pas fabriqué. Mais je me dis tout le temps dans la vie, quand on te pose une question, tu pourrais répondre cinq choses différentes, parce qu'on pense pas qu'une seule chose. Et je me dis, faut que je choisisse ce qui est le plus proche de, selon l'état dans lequel on te pose la question ou où t'en es dans ta vie, tu répondrais différentes choses. Et donc, du coup, je réponds la chose qui me paraît la plus proche de, à l'époque, qui me paraissait la plus proche de ce personnage-là.
Les gens, du coup, te confrontent à ce personnage-là toujours beaucoup, ou bien ils sont un peu plus au courant que c'est un personnage et que...
Ben, je sais pas trop, parce que j'essaye de pas trop me poser la question en me disant, tant que les gens se marrent et que, moi, je suis sincère et que j'ai l'impression de tromper personne, entre guillemets, et que les gens s'y retrouvent. J'essaye de pas trop me poser la question. Après, j'ai l'impression que qu'on est quand même dans une forme de vérité avec mon public. Enfin, ça a l'air d'être un truc un peu idéaliste, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, je sais pas, peut-être tu sens ça quand t'es sur scène, il y a un truc de communion et t'as l'impression que les gens, ils captent quelque chose de toi qui est même en dehors des mots ou de ce que tu leur montres.
Mais c'est plus, ils viennent pour la personnalité que pour les blagues en scène.
Ouais. Il y a quelque chose de... Je sais pas, il y a une relation qui se crée et tout. Après, c'est sûr que, par exemple, j'ai déjà eu droit, quand les gens ont su que j'étais mère, par exemple, de me dire, ah, mais putain, moi, je pensais que t'étais la meuf qui vivait toute seule, qui galérait, qui avait un chat, qui je sais pas quoi. Mais ça, c'est aussi un choix. Déjà, ça me dérange pas qu'on pense ça. Mm-hmm. Après, je trouve que c'est assez réducteur de penser qu'on galère avec un chat. Enfin, ce stéréotype-là est un peu gênant, mais pourquoi pas. Et après, c'est aussi parce que moi, j'ai voulu protéger, ma vie privée beaucoup, donc en effet, jamais personne n'a pu voir sur mes réseaux sociaux quoi que ce soit de ma vie réellement privée et tout. Et je pense qu'il y a aussi une confusion, c'est que j'écris sur ce dont j'ai guéri et pas sur ce dont je souffre. C'est-à-dire que si j'écrivais sur l'instantané, je serais très premier degré, ou alors ça ferait peut-être un petit drame mielleux, mais ça pourrait pas faire un stand-up, ou ça pourrait pas, j'ai pas de recul, j'ai pas de truc. Et j'ai besoin d'avoir guéri d'une situation pour pouvoir en parler et qu'il y ait des années ou un peu de temps qui soit passé.
Et comment tu sais que t'as assez digéré?
Je pense que c'est le moment où, dans la vie, il y a une espèce de déclic dans la vie où ton regard sur les choses change. Par exemple, je prends l'exemple d'une grossesse. J'ai été très angoissée pendant toute ma grossesse. Et puis, une fois que ce truc-là est passé, que j'ai su que ça allait bien, que des années ont passé, j'ai réussi à en parler en riant parce que je me suis vue de haut. Me dire, non, mais je me mettais dans des états pas possibles parce que j'aurais pas pu voir. Et c'est pareil pour les chagrins d'amour, par exemple. J'avais écrit un texte sur les chagrins d'amour que j'aime beaucoup. J'aurais jamais pu l'écrire pendant le chagrin d'amour, tellement la seule chose que je faisais, c'était pleurer en attendant, en regardant en lisant la page de mes mails, en attendant des mails, en attendant, enfin voilà. Et je pense qu'il y a un moment où, je sais pas, il y a un truc qui switch quand tu guéris et que tu dis, non, mais attends, j'ai été dans cet état-là, j'ai vu ce truc-là. Et là, tu peux commencer à transformer, la petite souffrance, les petites blessures en rire et en joie, quoi.
T'écris des choses pas drôles ? Il y a un point d'interrogation.
Les gens qui me détestent, les gens qui me détestent et qui écouteraient se diraient bah ouais tout le temps ouais.
De ton plein gré.
Bah en tout cas je sais pas, mais je cherche pas forcément à être drôle tout le temps. Ce qui a été aussi un truc que j'ai compris peut-être plus, enfin pendant le premier spectacle, où je me suis aperçue à des moments que des impros ou des moments vraiment totalement sincères de lâcher prise ou de ou d'observer quelque chose et de tout à coup montrer une faille à un endroit, bah ça provoquait le rire aussi. Donc disons que je cherche absolument pas le rire à tout prix. J'essaye de je sais pas trop ce que je cherche en plus quand j'écris, parce que au départ quand j'écrivais je savais pas que ça allait être un stand-up, mon tout premier spectacle. J'écrivais plein de textes et j'étais là, je sais pas quoi en faire. Et ma meilleure amie m'a dit, bah, monte sur scène, peut-être, vu que tu vas être comédienne et que personne t'embauche. Et
bon conseil.
Ouais, bon conseil. Et donc, du coup, je pense que j'écris parfois, oui, enfin, en tout cas, je cherche pas forcément. Je dirais que le curseur, il est pas forcément dans le drôle, même si pour moi, c'est évident que je veux qu'on rigole. Mmh. Mais je crois que la mécanique du drôle, je suis pas sûre de savoir exactement ce que c'est et je suis pas sûre qu'elle m'amuse. Donc, c'est plus des situations, et des états, un malaise dans des situations que quelque chose que je trouve drôle en vrai. C'est un truc dans lequel je vais me retrouver. Je sais pas comment dire. Disons que parfois, j'ai l'impression que je vais aller dans quelque chose de très spécifique et très personnel et me dire, bah ça, je vois pas comment ça peut parler aux gens. Et en fait, les gens, ils s'y retrouvent parce que t'es tellement au cœur d'un truc intime et spécifique que tout à coup, ça parle à tout le monde et qu'on se rend compte qu'on est tous pareils. Enfin, je sais pas.
Mais c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, surtout dans le dernier bouquin. J'avais jamais à ce point remarqué, peut-être parce que c'est écrit VS oral, mais à quel point tu parlais souvent pas tellement des situations, mais plus des sentiments. Mmh. Et vraiment de la jeunesse des choses plutôt que des effets. Et je trouve que c'est un truc qui manque un peu dans le stand-up parce qu'on souligne trop les situations et pas assez, ok, mais pourquoi c'est drôle? Pourquoi ça m'a fait ça? Et,
ouais.
Et ça, j'ai beaucoup aimé, du coup, dans le bouquin. Et le fait que j'avais l'impression que, ouais, t'avais justement... Il y a plein de passages où j'ai pas ri, ouais. Mais je me suis dit genre... Ah! It makes me feel things!
Ouais. Ah, mais ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que... Alors, du coup, sur ta question, où je comprends aussi... sur le bouquin, je m'autorise beaucoup plus aussi à l'écrit. Je m'autorise beaucoup plus à aller dans quelque chose de enfin... sans aller dans la mélancolie, mais je m'autorise plus à la mélancolie, la nostalgie. Je pense que je m'autorise plus le premier degré que juste l'autodérision et le regard sur soi. Enfin, parce que je pense qu'il y a quand même une pression. Je trouve que dans une salle de spectacle, on a envie de rire. Enfin, moi, je sais pas toi, mais quand parfois on me parle de quelqu'un ou que je m'intéresse à un truc et que je dis alors c'était bien et on me dit c'était super et je dis et tu t'es marré. Non, par contre, c'est pas drôle. Et t'es là, bah, c'est un stand-up, en fait. Donc, on dit ouais, mais c'est super. Moi, j'ai besoin quand même de ce truc-là. J'entends, hein, que faut que ça apporte peut-être pas que du rire ou tout. Mais je pense que le rire, c'est pas que du rire. Que quand on rit, il y a une raison, quoi. Quand une salle entière se met à rire ou que les rires, ils révèlent beaucoup de choses sur soi. Et je trouve que parfois, quand on dit, ouais, mais c'est pas que drôle, c'est aussi intelligent. Mais le fait que ce soit drôle, c'est intelligent. Le fait que ça provoque, je trouve. Et parfois, j'ai le sentiment qu'on est dans un, peut-être à une période de notre vie ou d'une époque ou je sais pas quoi. On a besoin de revendiquer qu'on sait réfléchir, qu'on a compris le monde, qu'on est critique vis-à-vis du monde, que parfois, je trouve qu'on passe peut-être aussi à côté du truc qui est le rire, qui pour moi raconte beaucoup de choses, en fait.
Oui, juste le divertissement, quoi.
Ouais, le divertissement et le fait que si on est capable d'en rire, c'est qu'on a digéré quelque chose, qu'on a guéri quelque chose et qu'on a compris, qu'en quelque sorte, on a compris cette chose-là, sans devoir la formuler de manière théorique et en disant qu'on l'a compris. Enfin, je sais pas.
Qu'est-ce qui te fait rire, toi ?
Dans la vie
ou... Dans la vie ou dans le stand-up? Tu regardes beaucoup de stand-up?
Non, j'en regarde assez peu parce qu'après... Enfin, peut-être aujourd'hui, je pourrais en re-regarder. À l'époque, je pouvais pas en regarder parce que j'ai passé un long moment de ma courte encore vie à vivre tous les succès des autres comme des échecs personnels et à me dire...
Waouh.
Ouais. Et à me dire... Mais ça, c'était plus avant aussi d'être produite et d'en faire de mon métier. Mais je me disais, mais pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui arrivent? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Et je pensais le public comme les gens. Pourquoi les gens aiment ça et aiment pas ça? Pourquoi nanana? Au lieu juste de dire, bon, mais ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire, quoi? Plutôt que de regarder le monde entier, de regarder comment font les autres, de regarder ce qui plaît aux autres. Pourquoi tu t'accordes pas, toi, de te dire, ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire? Plutôt que de donner plein d'excuses au fait que ça ne marche pas parce que les gens, les autres, les trucs et tout. Et donc, je voulais pas forcément regarder parce que j'avais peur de me... Pas tellement que ça me complexe, mais je trouve que c'est plus facile d'avancer sans avoir trop de modèles. Et donc, du coup, voilà, je n'avais pas envie forcément d'avoir des modèles ou des inspirations ou de me sentir d'une famille ou d'une autre, ou je sais pas. Et après, il y a beaucoup de gens qui me font rire. Thomas DDB me fait beaucoup rire. J'allais dire Louise Gervais me fait beaucoup rire,
eh ben, écoute,
ma mère, mais les deux me font beaucoup rire. Gervais plus que Sique, d'ailleurs. Le premier spectacle, je sais pas si c'est le premier d'ailleurs, mais les premiers spectacles de... Putain, mais c'est atroce, j'ai l'impression d'être hyper vieille, de Sarah Silverman m'ont beaucoup plu. Et j'allais dire aussi, comment elle s'appelle aussi, celle qui fait le truc sur sa grossesse, qui est enceinte, elle me
Ali
fait
Wong.
Rire aussi. Ouais.
Ouais.
Elle me fait rire, Larry David me fait rire. Seinfeld me faisait beaucoup rire quand j'étais petite, beaucoup, parce que je l'ai découvert vraiment très jeune, quand il y avait encore Canal Jimmy et qu'on regardait...
Canal Jimmy?
Ouais. C'était une chaîne de télé, je pense que ça n'existe plus. Je crois que c'était... Enfin, j'en sais rien, j'allais dire... Ça... J'ai toujours cru que Paris Première avait remplacé Canal Jimmy, mais je crois pas. Mais c'était genre sur la 8, quoi, un truc comme ça. Et c'était une chaîne où ils ont passé les premières séries, je pense, un peu américaines, le dimanche. Enfin, il y avait une série qui s'appelait Dream On, qui était géniale, mais qui était clairement pas pour mon âge. Il y avait beaucoup de trucs de cul et mais j'étais vraiment toute petite, donc j'ai vraiment que des flashs de me dire il y a vraiment beaucoup de sexe, mais c'était très drôle. Il y avait un générique que j'adorais et c'est un mec qui avait regardé aussi tellement de films que tout dans sa vie le ramenait à des extraits de films, de trucs et tout. Et quand j'ai eu l'occasion de faire un truc, mon premier, comment on appelle ça, format court, quand j'étais au Before du Grand Journal, j'avais fait un truc qui s'appelait le Oh Oh de Nora. Et qui, je m'étais un peu inspirée de ce truc-là où je m'étais dit, ce personnage de Dream On, s'il avait vécu dans les années 2000 avec Internet et tout. Et donc, à chaque fois qu'elle vivait un moment d'humiliation ou je sais pas quoi, elle avait une image du web ou un gif ou un mème ou un truc qui lui venait dans la gueule. Donc, le chat se réveille.
Oh, mais quel animal divin.
Ouais, elle est mignonne. Hein. Parlons de mon petit chat, un chat persan. Écaille de tortue. Je crois qu'on appelle ça même calico quand il y a du blanc plus écaille de tortue. Et,
sa tête va pas du tout avec son corps.
Non, mais parce qu'on l'a tondu.
Ouais, mais même. En fait, sa tête va avec rien.
Non, sa tête, montre-moi si elle est belle.
Oui, elle est fantastique. Mais c'est vraiment très cocasse comme physique.
Non, mais c'est vrai qu'il est encore plus cocasse depuis qu'elle t'aurait dû voir quand elle était chauve. Mais
chauve?
Elle a été totalement rasée. Parce qu'en fait, elle est tombée dans des chiottes dont la chasse d'eau n'avait pas été tirée. Et ça a été vraiment atroce. Parce qu'elle est restée 24 heures avec ça, j'étais pas là. Et quand je suis rentrée, j'ai découvert un chat qui était vraiment dans un sale état. Et donc, je l'ai emmené chez... C'est affreux, parce que vraiment, elle me dégoûtait, quoi. C'est affreux d'avoir un animal qui te dégoûte. Et donc, on a dû la tondre, voilà. Parce qu'avec tous ces poils de persan... Je sais pas comment je peux parler aussi longtemps, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais en gros, il y avait cette Canal Jimmy, oui, où il y avait Dream On et Seinfeld, et donc, on regardait les deux à la suite. Ça commençait par Seinfeld et j'avais genre, je pense, 7-8 ans ou je sais pas, j'étais toute petite. Et je me disais, tiens, c'est marrant. Mais je me formulais pas du tout que c'était un métier, ce qu'il faisait dans Seinfeld. Je comprenais pas ce truc de la personne qui raconte, en fait, des trucs.
Et tu voulais faire quoi quand t'étais enfant?
Au tout début, je voulais être fromagère. Enfin, au tout début, je voulais être hôtesse de l'air. Alors que j'ai très, très peur de l'avion et que j'avais déjà peur de l'avion. Donc, je comprends
Nickel.
Absolument pas pourquoi je voulais faire un truc... Et mais j'ai mis du temps vraiment à comprendre que il y avait une incompatibilité entre mon désir et la réalité. Parce
mais
que
c'était quoi? C'était le symbole qui t'intéressait? C'est le fait de voyager? C'est le...
Non, je sais pas, un truc. Je crois que je l'ai trouvé assez chic, quoi. Un truc de chic, ouais. Mais bon, j'étais vraiment très jeune quand je voulais faire ça. Et après, j'ai voulu être fromagère un peu, mais bon, sans pousser le truc très loin.
On m'a beaucoup parlé de ton obsession pour la bouffe.
Ah bon?
Quand j'ai demandé autour de moi, on me dit
ah bon?
La bouffe.
Ah bon?
Ouais.
Mais qui a dit ça?
On va parler de vin rouge, de fromage.
Ah bon?
Ouais.
Mais qui a parlé?
Qui a parlé? Tout le monde a parlé, Nora. Mais,
j'ai l'impression que je connais personne.
Non, mais les autres te connaissent.
Merde, ça c'est atroce quand tu connais personne, mais les autres te connaissent. Ça veut dire que tu n'as vraiment plus aucun mystère. Quoi.
Mm-hmm.
Elle picole, elle mange du fromage. Et puis après, j'ai eu une machine à écrire. J'étais là, je serais bien scénariste.
Juste parce que t'avais une machine à écrire.
Ouais.
Ça tient à ça.
Ça tient à rien.
Et puis c'est après... pour ça que dans Eleonore, c'est la machine à écrire ou c'est juste que pour la symbolique, c'était mieux d'avoir ça?
Bah non, mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'Eleonore, c'est vraiment mon frère qui l'a écrit et qui a tout mis en scène et je sais pas quoi. Donc il a sorti cette machine à écrire et c'est lui qui m'avait offert cette machine à écrire aussi. Donc c'est lui qui a un truc avec la machine à écrire, je pense.
D'accord.
Mais d'ailleurs, je sais pas s'il m'a offert sa machine à écrire ou quand il est parti à Los Angeles, j'ai pris sa machine à écrire. Mais d'ailleurs, je pense qu'il m'a pas offert sa machine à écrire.
C'est un cadeau et c'est un vol.
Ouais, c'est un vol. C'est clairement un vol. Et après, j'ai un peu voulu être comédienne, mais genre en me disant, bon, tu vois, c'est comme si tu veux être premier ministre, quoi. Il y a peu de chance. Enfin, pas tout à fait pareil dans la mesure où comédienne, c'est cool, mais où tu te dis, il y a peu de chance.
Ouais, mais pourquoi tu le fais? Alors ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi, si tu crois pas de ouf en un truc, tu t'investis quand même?
En fait, j'y crois complètement. Au fond, j'y crois. Et je sais que je vis des grandes choses. J'ai ce truc, je pense, d'enfant, de me dire... ça va être formidable, je vais être indépendante, je vais avoir la vie que je veux et je sais que des choses géniales vont arriver. Mais je suis obsédée par l'idée d'être autonome et indépendante financièrement. Et donc, je supporte pas l'idée de pouvoir être dépendante du regard des autres et d'un réel qui m'appelle et du désir des autres pour travailler. Donc, du coup, je me mets dans un espèce de truc de me dire « je veux, mais si ça arrive, faut que ça arrive bien ». Et gros, entre guillemets, faut que je puisse en vivre.
Il faut que, assez vite, tu aies construit ton empire.
Ouais. Mais parce qu'aussi, quand je dis à ma mère que je veux, être comédienne, elle me dit, bah, très bien, inscris-toi au groupe de théâtre, sauf que, elle me dit, tant que tu seras pas indépendante financièrement, tu vivras à la maison parce que moi, je peux pas t'aider. Et je me dis, mais en fait, je vais pas être indépendante. Enfin, donc, parce que j'ai commencé après à bosser dans des boutiques de lingerie, dans des chocolateries, dans des trucs, dans je sais pas quoi. Puis après, j'ai fait des études, j'ai fait un IUT en me disant, ça dure 2 ans, après, je bosse. Mais sauf qu'en fait, tu trouves pas de boulot. J'ai pas trouvé de boulot qui me convenait après 2 ans d'études. Donc après, j'ai fait le CELSA pour me retaper. Je sais plus, c'est 3 ans d'études. Et pour après me rendre compte, après tout ça, que c'est pas une question d'études ou de sécurité. C'est que juste, je ne veux pas faire un autre métier que ça. Donc, j'ai mis du temps à l'accepter, mais j'ai fait en sorte de pouvoir, quand j'ai décidé de faire que ça, quand j'ai décidé de quitter mon boulot pour être que comédienne ou que faire du stand-up, j'avais avancé suffisamment pour, j'avais commencé à écrire, par exemple, pour la télé, des séries, des petits trucs.
Pour M6.
Ouais. Et donc, du coup, j'arrivais à vivre et à payer mon loyer grâce à ça. J'ai besoin, en fait, j'ai besoin d'être, ouais, un peu indépendante pour me sentir libre de faire mes trucs et de surtout pas être dépendante de ma mère ou de qui que ce soit, quoi.
Pourquoi si tu voulais être comédienne, alors que tu dis souvent que genre dans la vie t'es pas la petite boute en train de la bande et tout, pourquoi tu t'es dit c'est vers l'humour que je vais aller plutôt que vers le théâtre ou les trucs ou le cinéma, enfin oui le cinéma du coup c'est parce que t'es un peu trop dépendante, mais pourquoi t'as pas fait un seul en scène sérieux ou
parce que je pense que sans me formuler que le truc de l'humour, mais je pense que j'ai toujours aimé dédramatiser les situations. Mais ça, pareil, je l'ai théorisé tard, hein. C'est pas du tout un truc que je me disais, c'est peut-être à force d'y réfléchir ou de répondre à la question, je me suis dit, bah, il y a peut-être en effet un truc lié à, parce qu'en effet, pourquoi, je pense que j'avais un goût, dans le fait de raconter des histoires et je pense que sans doute que dans l'enfance ou petite, nous, c'était pas forcément hyper joyeux à la maison. Il y a plein de choses qui faisaient que c'était un peu une ambiance... voilà, on parlait assez peu ou alors on parlait trop, mais ce n'était pas... C'était assez dysfonctionnel comme cadre familial. Donc, on était seul avec ma mère et nous, les enfants, on a été assez... forcés à être assez indépendants, je pense, assez vite. Et je crois que comme c'était un peu parfois plombé ou un peu... triste à la maison, je pense que ma manière de me sortir des situations ou de me sentir utile dans ce cadre-là, c'était d'essayer d'apporter de la légèreté ou de la joie. Comme j'étais beaucoup plus petite que les autres, enfin beaucoup plus petite, je suis la plus petite, je crois que j'ai eu le sentiment que comme j'étais moins impliquée dans les choses importantes, le seul rôle que je pouvais avoir là-dedans, c'était d'apporter un peu de rire, un peu de joie, un peu de dédramatisation. Et que ce truc-là m'a poursuivi, je pense, sans doute après, où j'ai toujours eu le sentiment que si j'arrivais à faire rire, j'étais un peu utile dans un environnement, mais n'importe lequel, quoi. Jusque, je pense que même après, quand j'étais dans des stages, qui n'avaient rien à voir, je pense que je me servais de l'humour en me disant, Ouais, c'est une manière d'être légitime à ma façon. Quand les gens rient, ils te considèrent. Et donc, et tu leur...
Et aujourd'hui, ta validation, elle passe par quoi ?
Bah, aujourd'hui, je me... Par la fin du Covid. Par... Je pense que elle passe par un public qui est là et qui rit. Je me sens, tu veux dire, ma validation dans le sens, quand est-ce que je vais me sentir, quand est-ce que je me sens légitime, ouais. Ou quand est-ce que je me dis que j'ai fait du bon travail.
Ouais,
quand je fais un spectacle et que je sens qu'il s'est passé quelque chose et que le public rit. Mais je me pose moins ces questions de... J'ai accepté que c'était aussi mon métier et j'ai accepté que ça pouvait ne pas plaire à tout le monde et j'ai accepté que j'avais absolument plus aucun problème à pas être aimée. Ce qui est un truc...
T'arrives à... Pardon, le chat, je suis désolée,
ouais,
mais
ouais.
Je ne t'entends plus, évidemment, quand
non,
elle est
sais.
Là.
Ça, elle fait souvent ça.
Donc, t'as accepté.
Oui. Mais je pense, en fait, depuis un moment où je me suis formulée ce truc de me dire, attends, tout va bien, quoi. Et puis, est-ce que toi, t'aimes tout le monde? Et puis, quel est ce truc? Je pense qu'au-delà de même d'accepter, c'est que c'est passé... Ça fait plus partie de mes... Mais dans la vie aussi, de mes questionnements. Quelqu'un qui ne m'aime pas ou m'apprécie pas, c'est moins devenu mon problème.
Mm.
C'est pas mon problème en vrai. Et c'est pas forcément un problème d'ailleurs.
Tu disais tantôt que t'avais jamais trop aimé l'école et machin, et j'ai lu que tu savais très tôt que ta réussite elle allait pas passer par les bonnes notes, comment t'imaginais les choses? De quoi t'avais envie? Comment t'imaginais ta vie?
En fait, c'est marrant parce que j'ai un souvenir genre très 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 jeune. Je pense que c'est en CP où c'est un des premiers exercices à faire. Tu sais, on a des ardoises et on doit écrire sur les trucs, les ardoises avec les feutres Velleda, là, la réponse. Et en fait, j'ai la réponse, je me souviens très bien de ce truc. Mais je regarde autour de moi et je me sens obligée de copier parce que je me dis c'est évident que je peux pas avoir la réponse. Et donc, je copie très jeune parce que je me fais absolument pas confiance. Je me dis, celui d'à côté, il sait forcément mieux que moi. Donc le truc de l'école, il est un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours eu le sentiment que, mais je pense que c'est plus un problème de, c'est pas tant que j'étais un cancre, c'est plus un problème de vraiment de se donner absolument, de pas se faire confiance et de se dire, puis bon, je n'aimais pas travailler à côté de ça et très vite dès que j'ai eu l'âge de m'intéresser aux garçons, j'ai préféré m'intéresser aux garçons et aux choses de l'amour et du cœur. Mais et puis surtout les autres, mes frères et sœurs étaient bons à l'école. Et mes maîtres et maîtresses me le rappelaient suffisamment de fois pour me dire que moi, non. Puis tous ces trucs ont des analyses de texte, t'es là, mais je n'ai absolument pas compris la même chose. Donc, si j'ai pas compris la même chose, est-ce que je suis débile? Ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont mis d'accord en faisant cette analyse de texte pour dire c'est ça qu'il fallait comprendre? Jamais compris ce truc-là, quoi. Mmh. De pourquoi, mais bon, bref, pourquoi il n'y a qu'une vérité et tout. Puis les notes, bref, tout. Donc, je m'étais toujours imaginé que, je sais pas ce que je m'imaginais parce que j'avais hâte de partir. L'autre jour, j'ai regardé ce film que j'avais jamais vu, Antoine Doinel, Les 400 coups.
Mm-hmm.
Et genre, en fait, j'ai pleuré, je me disais, oh, en fait, c'était vraiment ça. J'avais envie de vivre un peu la grande vie, mais je me posais pas tellement la question en tant, j'avais une obsession, par exemple, je me disais, j'aurais un appart et je mettrais des fleurs. Genre, j'avais vraiment un truc avec les fleurs. J'aurais des fleurs dans un appart. Et un jour, j'ai une copine qui m'a dit, tu sais que c'est marrant parce que dans les tests de télé-réalité, pour les profils psychologiques des gens, pour savoir s'ils sont pas trop atteints et tout, il y a un truc où c'est genre, si tu veux être fleuriste ou que t'es obsédé par les fleurs, a priori, c'est des personnes fragiles, il faut pas les mettre, faut pas les enfermer et tout. Cette phrase me revient souvent pendant cette pandémie où je fleuris mon appart en n'ayant pas
ouais,
le droit de sortir.
Ouais,
mais bon.
Oui, j'ai un peu refait genre tout ton compte Instagram et on est sur quelque chose de très fleuri.
Je sais pas. Il y a un truc qui me rassure. S'il y a des fleurs, ça va. Je sais pas. Il y a un truc. J'ai une obsession avec les fleurs, mais je pense que c'est un truc lié à l'enfance. Où en effet, je me souviens vraiment de me formuler dans ma tête, il y aura des fleurs, quoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être que une fois par an, ma mère, elle achetait des tulipes quand c'était le mois de mars ou avril. Ou je me souviens de tulipes et peut-être que je trouvais ça très beau, mais. Je sais pas, qu'il y a un truc qui vive, quoi. C'était très maniaque, tout était très bien rangé, donc de voir un truc se transformer, peut-être que ça me faisait du bien. Et à côté de ça, je dis ça, mais j'ai vraiment une phobie du pourri et des. donc je sais pas ce que je dis, quoi. Mais Donc j'imaginais ça. Et très jeune, j'ai commencé à économiser des sous. C'est-à-dire que dès que j'étais en âge d'avoir de perdre mes dents et d'avoir une petite souris, et puis plus tard un argent de poche, je mettais de l'argent de côté. Et je me souviens très bien qu'à, je sais pas, je dirais peut-être en seconde ou en première, j'ai commencé à acheter des trucs pour mon futur appart. Évidemment, quand j'ai été en âge d'emménager seule, je ne voulais plus du tout de la poêle qui fait des œufs en forme de cœur, ni du balai à chiottes avec des plumes multicolores, avec une tête de canard et ou de perroquet. Mais je sais pas, je voulais juste avoir moi, mes voisins, ma vie, dire bonjour, aller chez le... Enfin, tu vois, être grande, quoi.
Est-ce que c'est aussi cool que ce que tu pensais ? Est-ce que c'est mieux ?
C'est au moins aussi cool, ouais. Ouais, je trouve ça super. Mais après, je touche du bois parce que je trouve ça... Déjà, je trouve ça génial... En fait, je peux dire que je trouve ça génial maintenant, aujourd'hui, parce que je fais le métier que j'aime. Mais même quand c'était galère et que je faisais des boulots que j'aimais pas parce qu'il fallait bien payer mon loyer et tout, je trouvais ça quand même super. Je trouvais ça quand même toujours plus super d'avoir sa propre vie que, je sais pas, de sentir qu'il y a un jugement ou une pression ou une bonne ou une mauvaise manière de faire. Là, c'est ton expérience, tu le fais. Tout est hyper, je sais pas, c'est un rush permanent, quoi. Tu découvres... Enfin, je sais pas, c'est l'aventure, quoi. Tout appartient, c'est super.
C'est ouf à quel point il y a souvent... J'ai souvent entendu ça dans les interviews, et là, ça fait plusieurs fois, c'est ce truc de la bonne et de la mauvaise façon de faire. Mmh. Ça a l'air d'être un truc vraiment qui te travaille de... Ou qui t'a travaillé, en tout cas.
En tout cas, je pense que... Je sais pas, si j'étais chez le psy, je chercherais genre du côté de l'enfance et de me dire qu'on veut forcément plaire à ses parents et que comment on peut se sentir utile, nanana, je sais pas quoi, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Après, je dirais sans doute que dans mon adolescence, je me suis pas forcément reconnue dans les histoires d'amour typiques telles qu'on nous les racontait dans La Boum, par exemple, qui est pourtant un de mes films cultes, mais je me reconnaissais pas dans les trucs très... classique, ni dans mes manières d'être amoureuse, ni dans mes relations, ni dans...
T'aurais aimé voir quoi ?
J'aurais aimé avoir quoi ?
Voir quoi, pour t'y retrouver.
Mais non, mais je crois que j'aimais bien aussi ça. Enfin, parce que... Après, c'est toujours difficile. Je trouve que quand on grandit ou qu'on vieillit, qu'on a dû gérer les situations, on se dit « Oh là là, c'était tellement dingue !» Et en même temps, pour rien au monde, t'y retournerais parce que tu te souviens de l'état dans lequel t'étais à ces moments-là et tout, mais... Je sais pas, parce que j'aime bien le doute, j'aime bien le fait qu'on se pose la question, qu'on se dise qu'on rentre pas dans les cases et tout. Je trouve qu'à la fois, c'est fabuleux. Genre, aujourd'hui, parfois, je me dis, on progresse et peut-être qu'il y a plus de place à la singularité et à être différente et à moins ressembler à la fille du lycée. Il y a plus d'entraide, il y a plus de sororité, enfin, il y a plusieurs manières d'être et de s'aimer et de tout ça. À la fois, je me souhaiterais pas de me réconcilier avec tout moi-même, quoi. Je trouve ça assez chouette de pas savoir, de chercher, de se dire est-ce que je suis là ou là, est-ce que je corresponds à une norme ou pas. Mais je pense que ce truc de norme, il est en train de disparaître dans ma tête, sans doute parce que je suis adulte, mais aussi parce qu'on a de plus en plus de modèles différents et tout. Mais je pense que c'est plus un truc lié à la famille, peut-être que. J'ai l'impression que peut-être dans mon enfance, on a beaucoup opposé sécurité et plaisir. Et que si tu te fais plaisir, c'est pas sécurisant. Si tu fais le choix d'un truc qui va t'épanouir totalement, c'est qu'a priori, il est pas sécurisant. Et donc, du coup, je crois que dans ma tête, c'était vraiment un espèce de truc de me dire, soit je vis la vie que je veux, mais c'est instable, ça fait peur, c'est effrayant. Soit, j'ai un CDI, je sais pas où, nanana. Et en fait, il m'a vraiment fallu du temps et l'expérience et le faire pour me rendre compte qu'en fait, ce qu'il y a de plus insécurisant, c'est d'être malheureux, quoi. Et de pas être à sa place. Et que, mais bon, je pense que ça, c'est aussi les circonstances familiales et voilà, je sais pas. Franchement, j'ai l'impression d'être en thérapie.
Ah, pardon!
Non, mais du coup, je me dis, je parle très longuement et j'arrive à des nœuds où je sais pas où ils mènent et je me dis, mais quelle était la question au départ déjà? Parce que je sais pas ce que je dis.
Là, donc, tu réfléchis à adapter le public imaginaire. C'est ça, public imaginaire. T'avais déjà fait 2 bouquins avec tes chroniques. T'es une demande à chaque fois des éditeurs ou c'est toi qui dis tiens, j'ai envie d'en faire un truc écrit, j'ai envie de pousser, de faire quelque chose de plus littéraire ou...
Bah, la première fois, c'était une demande de l'éditeur où je me suis dit, ah, bah ouais, cool, sympa. Et après, comme j'ai une vraie névrose de pas utiliser 2 fois la même chose. C'est-à-dire que par exemple, si je sais pas si ça t'arrive, tu fais un truc, une chronique à la radio, t'as un passage que t'adores et tu te dis bah voilà, c'est fini, je pourrais plus jamais l'utiliser.
Ah moi je m'en bats les couilles.
Ah tu l'utilises ?
Ah moi j'utilise. Ah, je bah, trouve que si tu le pousses plus loin, en fait je trouve que quand je termine une chronique, c'est un bon début pour du stand-up.
Bah
c'est
oui.
Genre c'est enfin l'angle qui est bien et puis après tu peux le tirer en longueur, bah, tu peux machin.
Mais t'as complètement raison. Hein. Moi j'ai un problème dans la tête, je pense avec ça. Et parfois, je commence un peu à me réconcilier avec sur des mini choses, mais je sais pas, j'ai un espèce de truc de genre ça a été dit, ça ne pourra plus être dit. Voilà. Donc
tout a été formulé.
Bon, voilà. Et c'est chiant parce que parfois je me dis bah non mais alors en effet, si je l'étire et que je pars d'une minute pour en faire 20 minutes, c'est autre chose, mais parfois j'ai vraiment un morceau que j'aimerais garder tel quel, je ne peux pas. Et donc du coup, bref, l'éditeur m'a proposé d'éditer les chroniques et les trucs. Mais je me disais, je veux pas que ce soit juste les chroniques posées les unes après les autres, parce que je trouve que ça n'apporte rien. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ça justifie le fait que ce soit un livre? Donc, je m'étais dit, en effet, j'étire le propos, il y a des illustrations, il y a un truc. Et du coup, j'ai trouvé ça assez chouette de... sans qu'il y ait de fil conducteur, mais de faire revenir des personnages, de me dire tout à coup, ça, je sais pas, ça raconte un truc un peu différent ouais, du fait de la longueur... Donc voilà, ça c'était le premier livre. Et après le deuxième, bah, je sais pas, comme le premier a marché, on s'est dit si on en faisait un deuxième. Et là, Public Imaginaire, c'est différent. C'est plus... je sais pas pourquoi ce truc me tient à cœur d'une drôle de manière, mais peut-être parce que c'était beaucoup de solitude toute cette période. Et que quand j'ai fait ce spectacle à la radio... j'ai eu des messages et des trucs qui m'ont beaucoup touchée, des messages de gens et même moi quand je l'ai fait, je pense qu'on a tous perdu un peu pied et qu'on a tous une part d'irrationalité encore plus grande que d'habitude et qu'il y a un truc qui est quand même difficile entre la solitude, même si j'ai l'impression qu'on s'oblige tous aujourd'hui à le rappeler, même si on est privilégié, qu'on vit dans des conditions qui sont plutôt bonnes et tout. Je trouve que voilà, c'est de la solitude pour tout le monde en fait, d'être coupé, d'avoir plus que des souvenirs et pas de capacité de projection. Je trouve que c'est quelque chose qui est difficile. Et donc du coup, quand j'ai écrit ce texte et que je l'ai joué en direct, j'ai senti quelque chose de beaucoup plus fort que ce que j'imaginais. Moi, je m'étais dit, je vais faire une chronique d'une heure vingt en fait ou d'une heure quoi, et on verra. Et en fait, je sais pas pourquoi. Je crois qu'en le disant tout à coup à voix haute dans cette salle vide, eh ben ça a mis en... J'ai moi-même découvert en fait la solitude et l'espèce de bocal dans lequel on est où l'irrationalité domine, où à la fois il y a de la mélancolie, à la fois on perd tellement pied que tout peut nous faire rire, que tout est une rencontre. Et qu'en même temps, tout est le néant. Enfin, je sais pas, il y a un espèce de truc. Et du coup, je me disais, bah c'est cool que ce soit... j'aimerais bien que ça reste quelque part matérialisé, que ce soit un petit témoignage de ce moment-là. Et même si je suis la première à dire « Ah non, mais attends, des trucs sur le confinement, on n'en veut pas, là ça va. » Mais je pense que c'est pas tellement un truc de sur le confinement ou pas. Pour moi, c'est un truc sur un peu la solitude et un peu, ouais, la fin du rêve. Nos rêves sont devenus tout petits, je trouve. Tu vois, vraiment, je trouve que, ouais, on rêve petit parce qu'on a pas d'autre choix que de rêver, juste rêver à fond d'un retour à la normale. Ça a changé notre, je sais pas, notre psychisme et notre... Moi, mes rêves ont beaucoup changé, par exemple.
Ah ouais?
Ouais. Et je rêve beaucoup, par exemple, bizarrement, de mon adolescence ou du passé ou du truc, parce que je me dis, bah oui, mais parce que je pense que comme l'avenir est tellement incertain et qu'on n'arrive pas à se projeter, qu'il y a un truc où ça a rétréci. Moi, ça a rétréci un peu mes rêves, mes trucs, mes... Je sais pas, j'ai l'impression qu'une petite rencontre me rend euphorique. Ah, j'ai croisé telle personne chez Franprix, alors que c'est rien. L'autre jour, j'étais avec une amie ici qui, c'était il y a, je sais pas, 2 semaines, il a fait hyper beau. Et elle me disait, non, mais là, c'est cool maintenant que c'est l'été. Et je disais, c'est pas l'été, en fait. C'est même pas le printemps. On est en février. Ce n'est pas l'été. Je pense qu'on est ce truc de vivre au jour le jour, ouais, sans voir le bout. Ça a transformé quelque chose dans notre manière de voir les choses, de les penser, de les vivre et tout. Et du coup, ce texte, j'ai essayé de parler de ça dans ce texte, en fait. Et j'aimerais bien qu'il reste un peu.
Et quand t'écris ou quand tu joues des choses qui sont plus premier degré, est-ce que t'as eu un peu cette trouille au début de se dire « Oula, mais c'est pas du tout ma place et comment je fais pour dire quelque chose sans désamorcer derrière en faisant une pirouette ?»
Bah, par exemple, ce texte-là, tu trouves qu'il est plus premier degré ou pas forcément?
Celui-là,
ou...
non, mais je pensais plus au bout dans le dernier bouquin.
Comme c'est écrit, j'ai pas peur. Franchement, je le dirais à voix haute, je serais en train de rougir et je me poserais cette question-là. Mais comme c'est écrit, j'ai pas peur. J'ai l'impression que ça m'appartient plus et que c'est quelqu'un qui est tombé sur mon journal et qu'il en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que si c'est pas à moi de le formuler, ça me va. Je passe bizarre.
Ok.
Mais par exemple, tu vois, quand j'avais fait pendant le confinement des podcasts pour Vanity Fair, et je me disais, c'est la première fois que j'étais obligée de parler du temps présent, vu que normalement, je dis que je parle toujours de trucs que j'ai digérés. Et là, je me disais, bah, je parle de l'instant, donc j'ai forcément un truc un peu plus grave ou un peu plus... Et c'était un peu difficile au début, parce que je me disais, oh là là, j'ai pas envie d'entrer dans des trucs dans du sentimentalisme ou je sais pas... Et puis après, je me dis, tu sais quoi, fais ce que tu veux, surtout, puis on verra. Donc, ouais. Je me dis que quand c'est... Si c'est sincère... tant que toi, tu regrettes pas ce que tu dis et pourquoi tu le dis, après...
Mais t'as jamais peur que... Moi, c'est un truc qui m'angoisse quand on me demande de faire des choses au premier degré. De me laisser aller par un truc que je ressens, mais un truc très émotionnel, très court. Et puis, une fois que je serai sortie de cette phase-là... Je me dirais, mais meuf, mais get your shit together. Et, ouais. Et genre, t'étais une loque ou t'étais, tu vois, de me laisser trop aller dans ouais, quelque chose de très émotionnel.
Ouais, mais je crois que je m'autorise assez peu d'y aller. Donc, mais en effet, j'ai une limite. C'est pour ça que je parle rarement du temps présent. C'est pour ça que... Et sur le podcast pour Vanity Fair, là, les confinades, je me suis surprise, en fait, comme une sorte de toc, tu sais, mais par exemple, chez le psy, quand t'es chez le psy et que tu racontes un truc du temps présent, enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours quand même un moment où je vais essayer de le formuler pour qu'il me trouve soit hilarante, soit qu'il trouve que je suis vraiment sa meilleure patiente, soit pour... J'ai quand même mettre en scène le truc et je me suis aperçue qu'en fait, cette espèce de tic-là, bah, même quand t'es dans l'émotion, à partir du moment où ça devient oral et public, bah, t'as besoin de le transformer par, ok, je suis consciente de ce que je dis, je suis consciente de mon état, donc, si j'ai ce recul-là, et du coup d'en faire un truc un peu drôle ou de dédramatiser.
Est-ce qu'on t'a déjà reproché ça, dans la vie ?
De trop,
à chaque fois, trouver des pirouettes pour...
C'était les seules raisons pour lesquelles je me faisais engueuler enfant.
Ah ouais ?
Enfant, ouais. Très, genre, mais même à table et tout, enfin vraiment genre... Et en effet, elle me disait, ma mère me disait, mais tu ne peux pas te sortir des situations comme ça à chaque fois.
Bien sûr que si.
Voilà. Bien sûr que si. Mais sinon, dans la vie ou avec les amis et nous et tout, non, pas du tout, parce que j'ai plutôt une tendance à vouloir parler des heures de choses très importantes. Donc, j'ai plutôt tendance à m'impliquer beaucoup émotionnellement dans la vie privée plutôt que l'inverse. Pas tellement de pirouettes, je crois. Non.
Ok.
Non.
Tu t'es sentie comment la première fois que t'étais au cinéma? Enfin, dans l'écran, pas dans un cinéma.
La première fois au cinéma, je me demande si c'était pas pour Bernard et Bianca, mais je suis pas sûre parce qu'après je fais des recherches sur internet et les dates correspondent pas.
Attends, non, mais justement,
mais donc oui, l'inverse. D'accord.
Bernard et Bianca, mais
c'est les souris là, mais
ouais,
je
ouais,
sais pas.
Mais c'est pas.
J'ai 57 ans, Fanny.
Non, merci.
Mais non, la première fois que je me suis vue au cinéma.
Non, mais la première fois que t'as joué.
Ah.
Que c'est devenu genre c'est ton métier là. D'un coup, on te demande de jouer des choses.
Bah, les toutes premières fois où j'ai joué, c'était il y a longtemps, c'était pendant mon tout premier spectacle,
une
c'était les courts-métrages.
De... Oui.
Ah oui, il y a eu les pubs McDonald's. La pub McDonald's, c'était super, j'ai l'impression que j'étais embauchée. Bah, ça a été une énorme joie d'autonomie et d'indépendance, parce que j'étais en chagrin d'amour à ce moment-là.
Et aucun chagrin d'amour n'a survécu à un jeu dans une pub McDonald's.
Bah, bien sûr que non, évidemment. Et je me souviens très bien que, en fait, j'étais là en train d'attendre qu'on m'appelle, qu'ils reviennent, qu'il y a rien, bête. Et en fait, je suis allée, et c'est marrant parce que j'ai retenu ce truc-là, alors qu'on s'en a rien à foutre parce que c'est une pub McDo, mais à cette époque-là, ça aurait pu être un rôle dans le prochain film de Spielberg, ça aurait été pareil. En fait, j'en avais fait plein des castings pour des pubs, je n'étais jamais prise, j'étais tout le temps genre en callback, tu sais, les trois où tu dis, si elle se pète la jambe, ce sera peut-être toi, et la meuf se pète jamais la jambe. Et ce truc-là, j'y suis allée, genre vraiment, j'avais chialé toute la matinée, donc j'y suis allée en n'ayant rien à foutre. Et en effet, bah voilà, je l'ai eu. Je pense que c'est une des fois où j'ai moins cherché à avoir un truc. Et donc, du coup, j'étais là, tiens, intéressant, finalement, de, genre, vraiment, je me suis pas posé la question en y allant de, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir une meuf qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Donc, vraiment, j'y suis allée en disant bonjour, j'ai montré mes mains, mes deux profils, je me suis cassée, et on m'a appelé pour me dire, le tournage est à, attends, c'était où? C'était au Portugal, je crois? Non, attends, c'était où?
Ah oui!
Ouais. Ouais, et c'était super.
Ah, c'est pas genre tu sors du McDo, Opéra.
Non, okay. C'était trop bien. C'était hyper bien payé à l'époque, mais je me souviens plus parce que j'imagine qu'on était en francs. J'imagine, je sais plus quand est-ce qu'on est passé en euros.
2004. Alors, je sais pas pourquoi j'ai retenu, mais 2004, c'était l'année limite pour échanger ses francs contre des euros, en tout cas en Belgique.
2004, attends, moi je suis née en 83 et je devais avoir 17 ans pour ce truc. Ça fait combien? Ça fait 90, ça fait 20 ans. Non, on était peut-être déjà en euros. Non, je sais pas. Ah non, on était en francs. Ouais, t'as raison, 2000. Bon, bref, peu importe.
Elle ne sait pas compter.
Elle sait pas compter. Elle sait pas du tout compter. Mais ça a été un de mes problèmes aussi. Mais bon. On me dit, mais attends, l'ascenseur est au 2. Enfin bon, bref, c'est des chiffres négatifs. Ça a été un vrai problème pour moi où je me suis dit, en fait, t'es bête, ma pauvre. Tu es bête parce que tu ne comprends rien. Mais bref, et donc on est allé, je crois que c'était à Lisbonne, mais je me souviens plus maintenant, c'est bizarre. Et je m'étais dit, mais c'est génial, parce que voilà, tu te casses, tu te fais du blé, mademoiselle prend l'avion, elle fait son tournage et tout. Bon, voilà, donc ça c'était, mais bon, à la fois, je m'en foutais du tournage, mais je trouvais ça génial juste de me dire, je pars, j'ai un tournage. Voilà, c'était juste ça. Et de me dire, je suis seule dans un hôtel. Enfin, je sais pas, c'était pour moi un peu la grande vie, quoi. Et puis après les tournages de films, la première fois que j'ai tourné dans un film, c'était un court-métrage de Benoît Forjard. Et franchement, c'était super, quoi. Genre le jour où j'ai vu un clap et qu'il a dit action, même si j'avais sans doute déjà dû voir un clap et entendre action sur la pub McDo, mais je pense que j'avais occulté en me disant, ah, c'est une pub McDo, tu vois. Mais là, je me disais, oh là là, c'est quand même génial. Après, j'ai plus tourné pendant des années et après, j'ai recommencé à tourner un peu. Et oui, donc du coup, j'ai pas du tout répondu à la question de comment je me sentais.
Ouais.
Bah, ça dépend des tournages. Hein. Le premier vrai tournage qui a été important pour moi, c'était le film d'Olivier Assayas.
Mm-hmm. Donc, Double Vie.
Double Vie, ouais. Et ça, c'était absolument fou parce qu'en fait, ça s'est fait d'une manière tellement facile, fluide, je veux dire. Déjà, entre le moment où on m'a dit... je me souviens, mon agent m'avait envoyé un texto. J'étais dans le train pour Toulouse. Du coup, à chaque fois maintenant que je prends le train pour Toulouse, genre, je sens
T'attends, quelque chose
va se passer. Ouais.
Ouais.
Et j'allais jouer à Toulouse et ce train, c'est long pour aller à Toulouse. Et elle m'avait envoyé un message en me disant un truc du genre « Olivier Assayas aimerait te rencontrer » et tout. Et j'étais là, mais... Et j'avais dit, tu t'es trompé de destinataire. Et je m'étais dit dans ma tête, un agent ne peut pas se tromper de destinataire. Ça ne se fait pas, tu vois, c'est horrible, quoi. Mm. Et donc, en effet, elle ne s'était pas trompée de destinataire. Et j'étais là, mais pourquoi être là? Bah, écoute, j'en sais rien, pour un rôle, j'imagine. Et c'est Antoinette Boulas, la directrice de casting, qui a eu cette idée. Cette brillante idée, merci Antoinette. Et donc, quand j'ai rencontré, on a pris un café avec Olivier Assayas. Et c'était hyper... En fait, tu dis, bon, bah, en fait, ça peut être... Ça peut être sans pression, sans désir, sans se demander ce que la personne veut, sans se demander si tu lui plais ou pas, et que c'est juste en effet une rencontre, quoi. Mm-hmm. Deux personnes se rencontrent et se plaisent à un moment donné parce que voilà, s'entendent, parlent le même langage et tout. Et donc du coup, ça a été très fluide. Après, on m'a dit un peu plus tard, il aimerait bien venir voir ton spectacle, et là, je suis là, oh, catastrophe. Et je dis à mon agent, ils ne peuvent pas venir. Elle était là, mais pourquoi? J'étais là, bah parce que je parle de cul, de trucs et tout. Elle était là, bah, enfin, tu vas pas changer ton spectacle et te mettre à parler en alexandrin parce que Olivier Assayas vient, donc tu vas garder ton spectacle et tu vas te détendre. Et moi, je m'étais dit, bah voilà, c'est foutu.
Ouais, mais si il te enfin, je sais que c'est irrationnel, mais s'il te contacte, c'est qu'il
bah, il me connaissait pas. Hein.
Paquet. Mais il te connaissait pas, mais il a dû regarder un peu
il
Internet.
Avait, il avait regardé, ouais, il avait regardé des images sur Internet et tout et il aimait bien. Quand je disais je comprends pas, en fait il me disait bah, j'aime bien quitter comment tu parles, toi, enfin ta nature, tout. Mais je m'étais quand même dit aïe aïe aïe, tu vois, s'il déteste le spectacle, il a beau aimer ma nature, il y a un moment ouais. Le spectacle raconte quelque chose sur ma nature, donc s'il déteste, il déteste. Et puis à la fin du spectacle, il était pas là et la directrice de casting non plus, et j'étais là, bon bah voilà, c'est mort,
ils ont fui,
ils étaient embarrassés. Et mon agent m'a dit qu'elle avait reçu un message d'Antoinette lui disant « Il a trouvé super, mais il a dû filer un dîner, nanana. » J'étais là « Ouais, ouais, ouais. » Moi aussi, tiens, j'ai dû filer un dîner. Et le soir même, il m'a envoyé un message en me disant « c'était super, j'ai dû filer un dîner, donne-moi un petit peu de temps encore et tout ». Et puis en fait, un quart d'heure après, il m'a dit « en fait, j'ai pas besoin de temps, t'as le rôle et tout ». Et c'était super. Et le tournage a été, à l'image de cette rencontre, hyper… Vincent Macaigne, c'est quelqu'un avec qui était mon partenaire principal. C'est quelqu'un que j'adore, c'est devenu un ami. Je trouve que c'est le meilleur acteur. Enfin voilà, et la meilleure personne humainement. Enfin, à part tous mes autres amis qui écoutent ce podcast et qui se diront qu'ils sont passés après lui. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis dit, c'est dingue. Mais après, je sais que il a peut-être aussi, c'est dû beaucoup à. Au-delà du truc du tournage ou pas tournage, c'est dû à sa manière à lui, à Olivia Saez, de travailler, de te responsabiliser beaucoup, de te faire confiance, de donner assez peu d'indications. Il refusait, qui est par exemple un coach, il a horreur des coachs, des trucs et tout. Il veut une nature et il veut voir cette nature lui proposer quelque chose et tout. Donc, c'était vraiment hyper joyeux, hyper agréable comme tournage. Puis, on a eu toute une partie à Majorque, donc on était contents.
Enfin, ah oui, les trucs de la fin, là, ouais. Quand vous partez dans une maison. Ouais. Ouais. Okay. Est-ce que dans le cinéma, moi c'est un truc qui, je pense que c'est ce qui m'effraie le plus avec les tournages, le cinéma et tout, c'est que contrairement au stand-up où tu peux roder ton truc, les livres où tu peux repasser 1000 fois sur le truc, le cinéma tu fais 3 prises et puis c'est fini, que t'aies été bon ou pas, genre en vrai c'est fait.
Mais tu trouves pas qu'il y a ça plus sur le spectacle vivant où si tu te foires, c'est foiré et que tu peux pas revenir dessus? Parce que si tu rates une blague, tu vas pas dire attends, je vous la refais.
Ouais, mais tu te foires devant 300 personnes. Là, c'est devant des milliers de gens, des millions de gens qui vont au cinéma et qui te voient faire ce truc nul.
Bah ouais, mais ça, c'est la responsabilité. Moi, je trouve que ce qui est assez cool, c'est que, en effet, tu te mets à pas contrôler. Que là où, en effet, comme tu dis, une chronique, un truc, je les ai pas cités comme moi. Moi, j'en pouvais plus. France Inter, à la fin, j'étais à V72, tu vois. Plus je le lisais, tout à coup, tu dis, je vais inverser tous les paragraphes. En fait, c'est pas possible. Et là, tout à coup, il y a aussi quand même un confort de te dire, bah, c'est l'œil du metteur en scène, c'est lui, c'est son désir, c'est son film. Moi, j'ai absolument plus à juger mon travail. Donc, en effet, je fais de mon mieux. Mais si lui, il est content, moi, je suis contente. Et c'est plus, je trouve qu'il y a quelque chose où ça doit être assez agréable de se dire, pour une fois, c'est le désir de quelqu'un d'autre et le travail de quelqu'un d'autre qui t'utilise comme un des ingrédients de sa recette, mais.
T'as pas eu de mal à lâcher prise comme ça, à ne pas avoir le contrôle sur tout?
Non. Mais aussi, peut-être parce que je lui faisais vraiment beaucoup, beaucoup confiance et que Vincent, je trouve que c'est un grand acteur, je pense que j'avais arrivé même pas à me poser la question. Mais peut-être ça pourrait arriver. Hein. Mais je crois pas parce que, tu vois, c'est un truc même. Je trouve que même physiquement, parfois, tu te dis, oh ouais, mais attends, mais là, moi, je sortirais pas comme ça. Et t'es là, bah oui, mais en fait, t'es pas en train de sortir. T'es en train de jouer dans un film avec le regard de quelqu'un d'autre sur toi. Donc. Mais bon, chez Olivia Saez, j'étais tellement proche de ce que je suis moi que. Enfin, je sais pas. Je me suis pas posé la question.
Maintenant, oui. Ouais. Allez, deal with it. C'est quoi que t'aimerais faire dans les, à part ton court-métrage sur les extraterrestres?
Ah, mais je sais même pas si je veux le faire. Je crois que je veux pas réaliser, en fait. Mais que j'aimerais faire dans la vie?
Ouais.
Moi, j'aimerais bien continuer comme ça. Hein. Je suis assez contente. J'aimerais continuer le spectacle, faire d'autres spectacles. J'aimerais avoir des rôles hyper sympas à faire, à jouer. Voilà, j'aimerais, mais j'ai pas encore de, je sais pas. Mais si je savais, je suis sûre que je le dirais pas par superstition.
Ah ouais?
Ouais. Mais disons que je ne sais pas. Mais bon, j'aimerais bien continuer, je suis assez contente de mon quotidien, je parle d'avant tout ça, avant la pandémie. Mais s'il peut y avoir des beaux rôles, ça m'est égal de tourner beaucoup. Si je tourne
à Majorque.
Un peu, voilà, à Majorque. Ou l'été dernier, là en septembre, pas l'été, on est en quoi? En septembre, août septembre, j'ai tourné pour Jacques Doyon, c'était super. Mm-hmm. Je me dis, si t'as parfois un rôle super ou deux rôles super comme ça par an, et après à côté, t'as ton spectacle. Parce que je me suis quand même aperçue, je pense, et en jouant dans des films, mais aussi là avec la pandémie, que par exemple, mon désir premier, quand j'étais plus jeune, de me dire j'aimerais être comédienne, j'aimerais qu'on me joue dans des films, bah, en fait, ça revient toujours sur le truc d'indépendance, mais le fait de pouvoir, moi, faire mes propres trucs, je trouve que c'est quand même génial, quoi. Là, par exemple, cette situation, elle m'a vraiment mis, cette pandémie, elle m'a vraiment rappelé ça, à quel point je me disais, mais oh, En fait, d'être dans l'attente, je ne supporte pas être dans l'attente. Je ne supporte pas subir une situation, ne rien pouvoir en faire. Donc, je trouve que créer et se faire ses propres, enfin voilà, son propre travail, c'est quand même génial, quoi. Donc, je veux dire, même si un jour j'avais la chance de tourner plus, je pense que pour autant, j'aimerais toujours pouvoir continuer à faire des spectacles et écrire mes trucs.
Merci Nora.
Merci.
Merci d'avoir écouté Les gens qui doutent, j'espère que l'épisode vous a plu. Toutes les références, les spectacles, les films, les projets dont on a parlé sont tous listés dans la description. J'y glisse aussi tous les liens où retrouver Nora Hamzaoui, ses réseaux sociaux et son site où trouver ses dates de spectacle, puisque dès la réouverture des salles, elle reprendra le République. Elle sera aussi en tournée juste après un peu partout en France, ainsi qu'en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner via votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi le soutenir en faisant des dons Patreon de la somme de votre choix. Comme ça, ça me permet d'acheter des croquettes pour mon chat et de la cocaïne. Et pour être tenu au courant de la suite, des nouveaux épisodes, mais aussi des spectacles, des chroniques, des projets parallèles et tout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en tapant Fanny Ruet. Bisous! Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, l'époustouflant Maxime Moitieu. Oh là là!
Je t'ai vu fixer mon chat.